Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonsoir. En Israël, deux semaines après les élections, c'est Benjamin Netanyahou qui est chargé de former un gouvernement par le président Rivlin. La tâche s'annonce difficile pour le premier ministre sortant, qui, même avec le soutien de ses alliés, ne dispose pas de majorité absolue au Parlement. À Tel Aviv, les explications de Lucas de Villepin.
28 jours, c'est le temps dont dispose Benjamin Netanyahou pour former une coalition. Officiellement désigné par le président israélien Reuven Rivlin, il doit trouver une majorité de 61 députés sur les 120 que compte la Knesset. Le Likoud, parti du chef du gouvernement, a obtenu 30 sièges au Parlement aux élections il y a deux semaines. Il est soutenu par ses alliés ultra-orthodoxes et sionistes religieux, mais une partie de la droite israélienne refuse d'entrer dans un gouvernement sous sa direction. C'est le cas de Naftali Bennett, chef de file du parti nationaliste Yamina, et de Gideon Sar, transfuge du Likoud, qui a lancé sa propre formation. Pendant la campagne, Benjamin Netanyahou a aussi tenté un étonnant rapprochement avec le parti islamiste Ra'am, dont les quatre députés pourraient faire pencher la balance en sa faveur. Une ligne rouge pour l'extrême droite, qui menace de le lâcher si cette alliance avec un parti arabe est conclue. Si dans 28 jours, le Premier ministre n'est pas parvenu à trouver une majorité, c'est Yair Lapid, le chef de l'opposition, qui pourra à son tour tenter sa chance. Lucas de Villepin, Tel Aviv, Radio Vatican.
Une rafle de l'État islamique en Syrie. Les terroristes ont kidnappé au moins 19 personnes, dont une dizaine de civils, dans la Badia, le désert syrien, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Malgré sa mise en déroute en mars 2019 avec la chute de son califat, l'EI continue de lancer régulièrement des attaques meurtrières en Syrie. En Russie, des partisans d'Alexeï Navalny interpellés par la police aujourd'hui alors qu'ils s'étaient rassemblés devant la prison où l'opposant du Kremlin réalise actuellement une grève de la faim. Les personnes rassemblées demandaient à rencontrer le directeur de l'établissement pénitentiaire afin d'avoir des informations sur l'état de santé d'Alexeï Navalny qui aurait perdu 5 kilos depuis qu'il a cessé de s'alimenter il y a maintenant une semaine. Jour d'élection législative aujourd'hui au Groenland et le sujet qui occupe le débat, c'est un projet minier, l'extraction de terres rares et d'uranium qui divise ce territoire de l'Arctique depuis une dizaine d'années. Le Parti social-démocrate au pouvoir estime que ce projet minier représente une belle opportunité économique, tandis que le parti Inuit, en tête dans les sondages, y voit une menace pour l'environnement. La Côte d'Ivoire se dote d'un nouveau gouvernement. Le président Alassane Ouattara a notamment nommé son frère cadet, aîné, au ministère de la Défense. Comme convenu, Patrick Hachi prend donc la tête du gouvernement avec la difficile mission de poursuivre la politique de réconciliation nationale voulue par Alassane Ouattara. Nous restons sur le continent africain, plus précisément au Burundi, où un rapport du département d'État américain estime qu'au moins 200 personnes ont été tuées l'année dernière lors d'exécutions extrajudiciaires ou sous la torture. Bujumbura a toujours réfuté de tels rapports qui, selon lui, ne visent qu'à ternir l'image du pays. Les explications d'Aubin Nyunkuru.
Selon ce rapport qui retrace la situation des droits de l'homme au Burundi en 2020, les victimes de ces violations sont les membres de l'opposition pour la plupart. Ils sont soit arrêtés ou kidnappés et finissent dans les prisons ou jetés dans des places publiques. Ce rapport fait référence aux enquêtes de plusieurs organisations locales, dont certaines ont été interdites d'opérer dans le pays depuis la crise de 2015. Ce document parle de 200 cas de tuerie jusqu'au début du mois d'octobre en 2020. Ces informations sont confirmées par la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi selon le même rapport. Bujumbura a toujours rejeté en bloc le contenu de ces rapports. Leurs rédacteurs sont déconnectés de la réalité, rétorque-t-il, tout en les invitant à venir au pays pour faire le constat. Depuis Bujumbura, Aubin Nyunguru, Radio Vatican.
L'Église d'Afrique une nouvelle fois endeuillée. Monseigneur Paulino Lukudu Loro, archevêque émérite de Juba, la capitale du Soudan du Sud, est décédé hier. Il avait 80 ans. 4 jours de deuil sont proclamés dans le diocèse de Juba. Avant de passer à notre dossier, les intentions de prière pour le mois d'avril viennent d'être révélées. Prière pour les personnes qui risquent leur vie en luttant pour les droits fondamentaux dans les dictatures, les régimes autoritaires et même dans les démocraties en crise. Le message vidéo du pape François est à retrouver dès à présent sur notre site internet. Je vous rappelle l'adresse www.vaticannews.va. Il y a maintenant 500 ans, des missionnaires venus d'Espagne accostaient les côtes des Philippines en compagnie de l'explorateur Ferdinand de Magellan. Ainsi commençait l'évangélisation de ce vaste archipel asiatique. Aujourd'hui, selon les estimations, 90% des Philippins sont chrétiens, dont plus de 80% de catholiques romains et 9% de protestants. Cet anniversaire de l'évangélisation des Philippines a donné lieu à plusieurs gestes de la part du Saint-Père dernièrement, qui s'était rendu là-bas en 2015. Une messe a été célébrée à la basilique Saint-Pierre le 14 mars dernier, et ce dimanche, François a adressé un message vidéo aux catholiques de l'archipel. Il les remercie chaleureusement pour leur témoignage de foi et les encourage à poursuivre l'annonce de l'évangile. Alors comment la semence répandue il y a 500 ans a-t-elle pu donner autant de fruits? On en parle ce soir avec le père Bernard Holzer, assomptionniste en mission aux Philippines depuis 16 ans.
Lorsque les missionnaires sont arrivés ici aux Philippines, donc en 1521, ils ont trouvé un peuple très religieux, pacifique, accueillant, et ils ont été assez conquis par le christianisme, puisque lorsque Magellan est arrivé avec les Augustins et qu'il y a eu les premiers baptêmes très vite, une des offrandes qui a été faite, c'est l'enfant Jésus de Prague, qui a été donné à la princesse qui venait d'être baptisée. Et une de ses réflexions était, eh bien, une religion qui a comme Dieu un enfant ne peut être que bonne. Et ensuite, ces premiers missionnaires, c'était à la fois des savants, des érudits, etc. Ils ont commencé par traduire. Ils s'intéressaient aussi aux gens. Ils ont fait les premières cartes du pays. Et ils ont fait la flore, le relevé des choses, etc. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et aussi l'organisation de la société.
Alors, le peuple philippin a connu beaucoup d'épreuves. Est-ce que sa foi l'aide à traverser ces tempêtes?
Je crois qu'il y a une très grande résilience. C'est une de mes grandes expériences de voir comment le peuple arrive à supporter les catastrophes naturelles, mais aussi beaucoup de difficultés dans la vie. Et aujourd'hui, la façon dont ils approchent le Covid. Pour moi, ce qui m'a frappé ici en venant, c'est la Semaine Sainte. La Semaine Sainte est vraiment au cœur de cette foi, et pas tellement la résurrection. Le Vendredi Saint, ici, est très important. On communie vraiment aux souffrances du Christ. Christ s'est fait l'un de nous. Et moi, une expérience qui chaque fois me marque quand je vais dans une église, j'aime à m'attarder à l'entrée de l'église où souvent il y a un grand crucifix avec le Christ vraiment blessé avec beaucoup de sang. Et les gens viennent là caresser le Christ, lui parler, se confier à lui. C'est le Christ souffrant qui est l'icône de ce peuple. Et puis ensuite, cette joie de célébrer, de prier aussi, tout moment et occasion de prière. On ne fait pas une réunion sans commencer une prière. Il n'y a pas un acte qu'on fait ensemble sans prier et confier ça au Seigneur. Ça, c'est vraiment impressionnant.
À quel défi fait face aujourd'hui l'Église des Philippines?
C'est le défi du début, je crois que c'est une évangélisation en profondeur. C'est-à-dire une foi aussi qui nous transforme chacun, mais qui ensuite transforme la société. Or, le défi actuel, c'est la pauvreté, c'est la misère, mais c'est aussi les injustices, et puis les meurtres. C'est une société qui est très violente. La semence de l'évangile n'est pas encore entrée pleinement dans le cœur de chacun. Et l'archevêque de Manille, un peu à son programme, il a mis ça, c'est-à-dire que vraiment nous suivions le Christ et son message. Parce qu'il y a beaucoup de violence.
Voilà le père Bernard Holzer depuis les Philippines. Il était interrogé par Adélaïde Patrignani. Le prochain retour de l'information, c'est demain à 8h30. Très belle soirée.